Bien, donc je vais vous parler de la diaspora. Sur ma diapositive, j'ai mis là parce que je parlerai surtout quand même. Voilà, je parlerai surtout de cet exil des protestants dans les années 1680 qui s'explique par la persécution de Louis XIV contre les Huguenots, donc surtout à partir du début des années 1680, mais qui se combine à ce qui est un petit peu moins connu, qui est l'expulsion des Vaudois en janvier 1687 par le duc de Savoie, les Vaudois, c'est-à-dire en fait les protestants italiens qui vivaient dans les Alpes du duché de Savoie. Ces deux événements ont entraîné ce qui est certainement une des plus grandes migrations des temps modernes pour raisons religieuses, après l'expulsion des Juifs et des Morisques d'Espagne en 1492 et en 1609. Alors, quantitativement, que représente cet exode huguenot? Les chiffres les plus fantaisistes ont été avancés jusqu'à 2 millions de personnes qui sont parties, étant donné qu'on pense qu'il y avait à peu près 780 000 protestants en France en 1680, c'était un peu difficile que 2 millions partent. On pense aujourd'hui que c'est entre 150 et 200 000 protestants qui ont quitté la France, le chiffre avancé le plus fréquemment étant de 180 000 personnes, ce qui représente un peu moins du quart de la population protestante de l'époque. Bien évidemment, tous ceux qui ont tenté de fuir la France étaient plus nombreux, mais beaucoup ont été arrêtés, emprisonnés, envoyés au couvent, et n'ont finalement pas pu rejoindre ce que les protestants ont appelé les pays du refuge, même si les tentatives multiples ne furent pas rares et que certains ont pu quitter la France au bout de 2, 3, 4 tentatives. Les départs ont commencé à être significatifs en 1684, sont devenus très nombreux entre 1685 et 88, et puis se sont prolongés un peu, mais en diminuant, tout en restant très significatifs, on le voit jusqu'au début des années 1690. Alors, ces chiffres ne sont pas l'ensemble des protestants qui sont partis, ce sont ceux qui sont passés par Francfort en Allemagne, Francfort sur le Main. Beaucoup d'analyses du refuge huguenot se fondent sur les registres de Francfort, d'abord parce qu'il y a des registres très bien tenus et que c'était, je l'expliquerai tout à l'heure, une des places de passage les plus importantes. Les protestants qui partaient vers l'Europe du Nord ou de l'Est étaient sûrs d'obtenir des secours, un peu d'argent, de la nourriture, des vêtements éventuellement à Francfort. Donc on se rendait très souvent à Francfort avant de partir ailleurs. Et là, des registres très bien tenus existaient, ce qui permet de savoir assez bien quels sont ces flux de protestants quittant la France. Bon, il y a eu ensuite d'autres pics de départ, après ces années 1680 jusqu'à 93, ensuite on voit déjà 94, ça baisse beaucoup, d'autres pics de départ, mais moins importants. Il y a eu notamment des départs en 1680, entre 1699 et 1701, puis en 1724 également. Alors, où sont partis les réfugiés? On le voit ici, en Angleterre, 40, 50 000 personnes protestants se sont rendues en Angleterre, peut-être un peu plus, et de là, 10 000 sont partis en Irlande, souvent ne se plaisant pas en Angleterre, on verra pourquoi, et puis quelques-uns sont partis vers les colonies anglaises d'Amérique. Les Provinces Unies, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, c'est 35 à 50 000 personnes. Un petit nombre d'entre eux n'est pas resté aux Provinces-Unies et est parti au Suriname, donc en Amérique du Sud, ou en Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, entre 1688 et 1691, on a 178 familles protestantes qui se sont rendues dans le pays, et ce sont les ancêtres des Afrikaners, On sait qu'un certain nombre de Sud-Africains ont des noms d'origine française, enfin qui... Bon, Pinard, par exemple, et De Clercq, enfin, il y a un certain nombre de noms qui viennent de France, et ce sont presque à coup sûr des descendants de Huguenots. En Allemagne, entre 38 000 et 44 000 personnes, alors réparties surtout en Prusse, en Hesse, en Franconie, en Wurtemberg. Je vous montrerai une carte tout de suite sur la diapositive suivante. Pour la Suisse, 60 000 personnes, mais la Suisse, c'est un lieu de passage. Assez peu se sont fixés en Suisse, 40 000 repartent de la Suisse, généralement vers l'Allemagne et éventuellement plus loin. Et puis on a quelques centaines ou milliers de personnes, mais là c'est beaucoup plus marginal, qui sont partis en Danemark, au Danemark, en Russie ou en Suède. Donc voilà les principales zones de refuge, donc Suisse, Allemagne, les Provinces-Unies, donc Pays-Bas, l'Angleterre, puis quelques-uns, on voit pour Danemark, Suède et Russie. Et si on voit les zones principales vers les Provinces-Unies et l'Allemagne, vous voyez ces lieux de Prusse, Brandebourg, donc avec Berlin, la Hesse également importante, et puis donc, un peu plus au sud, la Franconie, le Wurtemberg, mais c'est un peu plus marginal. Donc une émigration importante qui pourtant n'aurait pas dû se produire ou être en tout cas très limitée. En effet, l'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire l'édit qui révoque l'édit de Nantes, prévoyait deux cas très différents pour les protestants. Les pasteurs devaient soit abjurer, soit quitter la France dans les 15 jours, mais sans leurs enfants de plus de 7 ans et sans leurs parents, leurs ascendants. L'ont-ils fait ? Il y avait à l'époque 800 à 900 pasteurs en France. Environ un cinquième ont abjuré, donc sont devenus catholiques. Pour la plupart, sont devenus bons catholiques, d'ailleurs. Quelques-uns sont revenus au protestantisme, mais très peu nombreux. Et tous les autres sont partis en exil, quelquefois avec les enfants de plus de 7 ans qu'ils ont réussi à amener de manière clandestine, grâce aussi à la compassion d'un certain nombre de gardes frontières. Deuxième cas, tous les autres protestants, donc à peu près de 180 000 personnes, pour eux, le départ était interdit. Départ qui s'est fait malgré tout, mais de manière clandestine. Donc qui a fui la France parmi ces à peu près 780 000 protestants français? Il y a de nombreux facteurs qui ont pu soit faciliter, soit rendu plus difficile le départ. Premier facteur, certainement le plus évident, c'est le facteur géographique. Il est beaucoup plus facile de quitter le pays lorsqu'on habite près des côtes ou près des frontières. C'est pourquoi plusieurs ordonnances royales ont interdit aux capitaines de bâtiments étrangers d'embarquer des passagers sans l'autorisation du roi. On surveille particulièrement l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord. Alors, beaucoup de protestants ont tenté d'embarquer en Bretagne, Nantes, Saint-Nazaire, Paimbœuf, Saint-Malo, etc., dans l'espoir d'une moindre surveillance, puisque la Bretagne n'est pas une région protestante, et on pensait que les gardes-côtes seraient moins attentifs. Voilà une carte des régions d'origine des réfugiés. Une carte qui est fausse, je vous préviens tout de suite, parce qu'elle est faite, là encore, à partir des réfugiés qui passent à Francfort, hein, qui est toujours notre principale source. Donc, elle est sans doute proche de la réalité pour toute la moitié est de la France, moins pour l'ouest, parce que quand on est d'une province de l'ouest, souvent on prend un bateau pour aller directement en Angleterre sans passer par Francfort. Et du coup, ces gens-là ne sont pas répertoriés. En fait, ça donne une idée quand même des principales régions d'où on a pu fuir. Voilà. Donc, principale difficulté aux frontières, c'est que les protestants n'ont pas de passeport, ou ont des faux, mais pas toujours bien imités. Heureusement pour eux, les troupes ne sont pas assez nombreuses pour tout surveiller. Alors, on a fait appel à des volontaires, mais quelquefois complaisants, et qui laisse passer un peu trop facilement les fugitifs, ce qui fait que ces volontaires sont supprimés en décembre 1686. De toute façon, on a des guides ou des frontaliers compatissants ou qui ont envie d'argent, parce qu'on les paye aussi, qui permettent, dans de nombreux cas, d'éviter les patrouilles. Pour donner quelques chiffres, pour le Poitou, l'Ouest, assez peu représenté ici, parce que justement, ils sont partis beaucoup vers l'Angleterre, au Poitou, on avait 77 000 protestants en 1680. 18 000 ont quitté la France, ça fait 23%. Pour le Dauphiné, là, c'est sans doute beaucoup plus juste, c'est 27% de la population protestante qui a pu partir. En Normandie, 50%. Bretagne, 58%. Il faut dire que les Bretons, protestants bretons étaient très peu nombreux. Hein, mais plus de la moitié ont réussi à partir. 60% pour l'Anjou, la Touraine, le Maine. Hein, donc ces régions du centre-ouest de la France se sont vraiment vidées de leur population protestante, qui était, je le répète, peu nombreuse, sauf en Normandie, hein, où là il y avait des foyers assez importants. Les pourcentages sont aussi forts pour l'Aunis, donc la région de La Rochelle, et la Picardie. 25% pour l'Aunis, 33% pour la Picardie. Bon, Picardie, évidemment, la frontière est très proche et ça facilite le passage. 40% également des Huguenots de Champagne et plus de la moitié des protestants parisiens ont pu quitter la France. Autre facteur en dehors de la proximité des frontières permettant l'exil, c'est le petit nombre des Huguenots dans une région donnée. Ceux qui se sentaient isolés dans une région très majoritairement catholique ont été beaucoup plus prompts à partir. Ça explique le très fort pourcentage de la Bretagne, que je vous ai indiqué tout à l'heure. Pour la Bourgogne, on en a parlé il y a 15 jours, 59-60% peut-être de départ. Hein, mais là aussi, c'est vraiment des isolats, des gens qui se sentent complètement noyés dans la masse catholique. Au total, on pense que c'est à peu près 40% des protestants du nord de la France qui auraient émigré, nord de la France où les protestants étaient relativement peu nombreux. En revanche, le sud de la France a des bastions protestants solides. Et dans le sud, ils ne sont que 25% à partir. Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile de partir du sud de la France vers les pays protestants qui sont plutôt situés dans le nord de l'Europe. Mais je crois que l'effet de masse de ces bastions protestants du sud a sans doute freiné également le départ. On a par exemple seulement en Cévennes 6% des protestants qui sont partis, 8% dans le Vivarais, 10% en Guyenne. Et là, vraiment, le fait que les protestants étaient majoritaires dans certains villages a dû leur donner l'impression qu'il était toujours possible de vivre en protestant en France, même si ça devait être dans la clandestinité. Un autre facteur, c'est le facteur social. Toutes les catégories ne partent pas dans les mêmes proportions. Les pasteurs, on l'a vu, ont été très nombreux à partir. Beaucoup de notables sont partis également. Ce sont des gens qui pouvaient facilement mettre leurs biens à l'abri. C'est des gens qui disposaient de connaissances à l'étranger et pour qui le départ était finalement, je ne dis pas confortable, mais en tout cas beaucoup plus facile. On compte aussi de nombreux militaires et pas mal de marins. Entre 9 et 15 000 marins protestants ont quitté la France. Là, c'est des gens qui ont l'habitude de voyager, de vivre ailleurs que chez eux. Et là aussi, on peut imaginer que l'exil était quelque chose de plus facile. Ceci dit, l'émigration protestante a été majoritairement populaire. Il n'y a pas tant de notables que ça, même chez les protestants. Donc sur 180 000 personnes qui s'en vont, ce sont surtout des gens de milieu populaire. Les artisans ont été particulièrement nombreux, notamment les artisans du textile, que ce soit au bas de l'échelle des humbles quart d'heure jusqu'aux plus prestigieux brodeurs, passementiers. On a également bien représenté les travailleurs du cuir, du métal, du bois. Ce sont des personnes qui pouvaient partir quelquefois avec leur outil de travail, qui partaient de toute façon toujours avec leur savoir-faire et qui étaient les bienvenus dans des pays où leur capacité allait permettre de développer l'économie. Si je reviens tout à fait en arrière, voilà, ce bas-relief qui se trouve sur l'église française protestante de Berlin montre l'électeur de Brandebourg, duc de Prusse, qui accueille les réfugiés français. L'électeur de Brandebourg, on en parlera, a émis un édit pour leur dire de venir, et très vite, il s'est mis à sélectionner les protestants. Ils étaient théoriquement tous les bienvenus, mais s'ils étaient militaires ou artisans, notamment du textile, ils étaient nettement mieux venus que s'ils avaient d'autres capacités. Alors, on a également des paysans, une légende tenace qui dit que les paysans ne sont pas partis, aussi nombreux que les autres, mais des paysans sont partis, issus du Dauphiné, notamment du Piémont ou du Luberon. Mais pour des paysans, partir, c'était abandonner tout ce qui les faisait vivre, s'installer dans des terres où le climat rendait quelquefois impossible les cultures auxquelles ils étaient accoutumés. Il ne faut pas oublier, on a vu sur la carte, qu'ils partent en Prusse, en Angleterre, aux Pays-Bas. Ils viennent en partie du sud de la France, ne sont évidemment pas du tout les mêmes habitudes de culture. Alors, tout le monde n'est pas égal face à la possibilité de fuir la France. Les enfants ne peuvent pas partir seuls. Les personnes âgées n'en ont souvent pas la force. Si on prend, là encore, l'ensemble des réfugiés passant à Francfort, on constate une surreprésentation des hommes seuls. On a compté 10 231 hommes passant tout seuls, sans leur famille. Donc 10 231 contre seulement 5 174 femmes seules et 1876 couples. Donc l'émigration, c'est vraiment d'abord des hommes seuls. Souvent célibataires, assez jeunes. Bon, les femmes sont moins représentées. Il est évidemment très difficile pour des femmes jeunes ou des femmes chargées d'enfants de voyager, de traverser une partie de l'Europe sans être accompagnées. Alors, ces facteurs n'expliquent évidemment pas tout. Dans une même famille, on constate que certains acceptent assez facilement de devenir catholiques, alors que d'autres, le frère, la sœur, le cousin, s'y refusent absolument, pour des raisons purement personnelles, mais difficiles à connaître. Bon, il faut évidemment tenir compte de la foi de ces personnes, mais sans qu'on puisse en dire plus. On trouve ainsi des personnes âgées qui partent à l'étranger, alors que c'est particulièrement difficile pour elles, alors que leurs enfants restent en France, ou des épouses qui quittent toute leur famille pour vivre leur foi au refuge. Question de foi personnelle, autre raison, ce sera sans doute toujours inconnu. Dans certains cas, l'éclatement des familles pouvait correspondre à une stratégie. Se séparer présentait moins de risques de se faire prendre. Et d'autre part, il était fréquent qu'un membre de la famille parte le premier, cherche un lieu d'accueil, puis tente de faire venir ses proches. Il pouvait arriver aussi que, lors du départ d'une famille, un volontaire ou une personne désignée abjure pour rester en France et conserver les biens, voire récupérer les propriétés confisquées de toute la famille dans l'attente d'un retour hypothétique. Alors, comment quitter la France ? Je pense, voilà, c'est une gravure de propagande hollandaise qui montre à peu près tous les moyens possibles pour quitter la France. Donc, une fois qu'on a décidé de partir, il faut se mettre en route. Les chemins empruntés, ce sont souvent des chemins muletiers, bien connus, parce que ce sont des routes de commerce. Les protestants de Parel Monial, dont je vous avais parlé il y a 15 jours, par exemple, utilisent les routes de colportage vers Lyon et vers la Suisse. Beaucoup de ces protestants de Paray-le-Monial étaient d'ailleurs des colporteurs ou des descendants de colporteurs. Donc, ils continuent à prendre les routes auxquelles ils sont habitués. Mais évidemment, plus on avance dans le temps, plus ces chemins étaient surveillés. D'où la nécessité de recourir à d'autres, plus petits, moins fréquentés. Bien des départs avaient lieu de nuit, à pied, on se cachait pendant la journée, et on tentait de passer par des lieux où subsistaient des communautés réformées qui pouvaient fournir de l'aide. Un exemple, les Huguenots du Berry. Donc là, on est vraiment en plein centre de la France. Ils sont nombreux à partir en Suisse. Et pour ça, ils passent par la Charité-sur-Loire, Corbigny, Château-Chinon, Couches ou Paray-le-Monial, Chalon, c'est-à-dire les principales églises entre le Berry et la Suisse, et notamment principales églises de Bourgogne. Beaucoup de fugitifs se rendent d'abord dans une ville ou dans ses abords. On entrait ensuite, souvent au bout de plusieurs jours, en contact avec des guides, dans des auberges de la ville ou à l'extérieur. La motivation des guides était extrêmement variable. Ils se faisaient payer très cher. Il faut dire qu'ils encouraient des risques énormes, puisque jusqu'en 1687, un guide qui se faisait prendre était condamné aux galères, et après 1687, c'était la peine de mort. Donc on comprend qu'il demande un petit peu d'argent. Bien des fugitifs bénéficiaient aussi de la complicité de réseaux familiaux et professionnels qui fournissaient l'hébergement pendant le voyage, des cartes, des noms d'hôtes pas trop regardants sur la religion, qui pouvaient donner également des noms de guides. Bien entendu, tout ça n'était pas sans risque, puisqu'il y avait régulièrement des descentes de police dans les auberges soupçonnées d'abriter des protestants. Les dénonciations étaient nombreuses, d'autant qu'une récompense était prévue pour ceux qui favoriseraient la capture des fugitifs. Ça permettait de récupérer les biens de celui qui se faisait arrêter. Des guides escroquaient leurs fugitifs, demandant de l'argent pour les dénoncer ensuite, mais au total, les filières étaient assez bien organisées. 680 000 personnes ont pu partir, c'est que quand même, les frontières étaient assez poreuses. La complicité, au moins passive, de nombre de catholiques était certainement assez forte pour que seulement une minorité se soit fait prendre. Sur les routes, les fugitifs voyageaient souvent par groupe, généralement entre 5 et 15 personnes en France, plus une fois que la frontière était franchie, là il y avait moins de risques. Les groupes importants, surtout s'il s'agissait de femmes, de jeunes enfants, de vieillards, on pensait être plus en sécurité quand on était un peu plus nombreux, davantage à l'abri des voleurs, des brigands, mais plus on est nombreux, évidemment, plus on a des risques de se faire repérer. Ces groupes sont composés généralement de personnes d'une même région, parlant la même langue, donc Languedoc par exemple, un Gascon et un Picard ne parlent pas la même langue, je rappelle, au XVIIe siècle. Donc des gens qui partagent aussi les mêmes traditions, qui ont quelquefois la même profession, ce qui est une aide quand on arrive dans ces contrées inconnues. Il s'agissait quelquefois de familles élargies au cousinage, surtout chez les paysans, plus rarement des couples avec les enfants, j'en ai parlé plus haut, mais on avait assez souvent, malgré tout, des adultes qui voyagent séparément sous prétexte de raisons professionnelles, puis des enfants étaient envoyés à l'étranger, on donnait comme prétexte qu'ils allaient chez leur nourrice ou chez un lointain parent, et puis finalement toute la famille arrivait à se recomposer à l'étranger. Avant même de partir, il faut savoir qu'on peut être accueilli dans certains pays. En fait, cette émigration n'est pas la première. Donc il y a eu, on l'a évoqué, d'autres diasporas, ce qu'on appelle un premier refuge au XVIe siècle, au moment des premières persécutions et des guerres de religion. Et des communautés francophones se sont établies à ce moment-là à l'étranger, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, dans l'Empire germanique. Et des liens étaient restés entre ces communautés, enfin, les descendants de ces premiers réfugiés, et les communautés françaises, ce qui explique que beaucoup cherchent à s'établir dans ces régions. Mais la révocation des édits de Nantes se situe aussi dans un contexte politique particulier. C'est le moment où Louis XIV s'oppose à l'Europe presque tout entière, où il cherche à réunir de nouveaux territoires à la France. Et donc les chefs d'État européens voient une occasion inespérée de combattre la France en aidant les Huguenots, mais sans prendre trop de risques. Ils se contentent d'offrir l'asile à ceux qui veulent fuir le royaume de France. Pour ces souverains étrangers, c'est aussi un moyen de développer leur économie en attirant les professionnels qui leur manquent. Ce qui fait que de nombreux États édictent des privilèges pour ceux qui s'établissent chez eux, c'est-à-dire qu'ils définissent des règles de leur installation. Privilèges qui sont imprimés, envoyés, affichés dans tous les lieux où les réfugiés peuvent se rassembler pour les attirer. On les trouve dans des gazettes. Les marchands d'Amsterdam sont invités à les faire connaître à leurs correspondants et on les fait passer dans des courriers jusque dans les communautés françaises. Le plus célèbre de ces édits dans l'Empire germanique, c'est l'édit de Potsdam du 8 novembre 1685, par lequel l'électeur de Brandebourg promet des terres et des aides à ceux qui s'établiraient sur ces terres. Mais ce n'est pas le premier. Le 18 avril 1685, on est avant la révocation de l'édit de Nantes. Bon, il y a déjà beaucoup de persécutions contre les protestants, mais la révocation n'a pas encore eu lieu. 18 avril 1685, le landgrave de Hesse Kassel, donc en Allemagne, accorde une charte de liberté permettant aux Huguenots de s'installer dans les campagnes et les villes de ces États. On a d'autres États, la Hesse-Rombourg, principauté de Brandebourg, Bayreuth, etc., qui accordent des privilèges et qui fondent de nouvelles villes, Kassel, Karlshafen, Friedrichsdorf, Erlangen. Donc un certain nombre de villes allemandes sont fondées à ce moment-là pour des réfugiés, avec souvent interdiction aux Allemands de s'y établir. Ce sont des villes purement françaises. Elles vont le rester pendant 20, 30 ans, et puis peu à peu, une mixité va se faire. Dans la plupart des cas, les réfugiés sont sous la protection du souverain auquel ils prêtent serment, ce qui peut leur être utile parce que les populations locales, bien que protestantes elles aussi, sont souvent hostiles à ces nouveaux venus qui leur font concurrence. Et on a des discours anti-immigrés qu'on pourrait mettre en parallèle avec des discours plus actuels. Donc, ils prêtent serment au souverain contre la permission de s'installer sur des terres. Ils ont l'autorisation de pratiquer leur religion en français. Ils ont des droits particuliers en matière de justice. Ils sont exemptés d'impôts. C'est ainsi que des colonies françaises peuvent se développer en Allemagne. Pour l'Angleterre, dès 1681, Charles II avait accordé gratuitement des lettres d'établissement, si j'essaye de traduire le mieux possible, qui permettent de séjourner dans le pays aux réfugiés avec le droit de pratiquer leur religion et d'exercer leur profession. Jacques II, son successeur, pourtant catholique, maintient cette politique. Et après la révocation, il promulgue un édit en faveur des réfugiés qui s'installeraient en Angleterre. Donc là, ce n'est pas du tout une solidarité confessionnelle de la part de Jacques II, c'est plutôt un intérêt économique bien compris. Et ces droits pour les protestants n'augmentent guère sous Guillaume III, roi protestant pourtant, lui, mais les Huguenots sont davantage attirés cette fois par un pays qui est clairement protestant. Guillaume III vient des Pays-Bas, c'est l'ancien statuder, donc chef militaire des Provinces-Unies, et qui arrive sur le trône d'Angleterre. Même politique en Irlande, pourtant catholique, mais en 1674, le Parlement irlandais promet aux réfugiés des actes de naturalisation et l'admission gratuite dans toutes les corporations. Voilà un exemple de privilège hollandais, donc ce qui fait que la plupart d'entre vous, j'imagine, ne comprennent pas bien ce qui est, et je ne vous le traduirai pas, mais bon, voilà à quoi pouvaient ressembler ces affiches placardées un peu partout. Dès 1681, la ville d'Amsterdam, alors celle-là, c'est pas Amsterdam, ça doit être Groningue, je crois. Dès 1681, Amsterdam accorde le droit de bourgeoisie à tous les protestants qui demandent asile. Le 25 septembre 1681, les États de Hollande accordent aux réfugiés une exonération d'impôts pour 12 ans. La Frise avait fait de même quelques mois plus tôt. Et les mesures se multiplient en 1685, au moment de la révocation. Donc Middelbourg promet une exemption d'impôt de 10 ans, Utrecht de 12 ans, Groningue, donc voilà celui que vous avez là, en 1686, 14 ans d'impôt, d'exonération d'impôt. Donc une véritable surenchère. Et de plus, dans toutes ces provinces, dans ces villes, on fait des collectes en faveur des réfugiés pauvres. ceci n'est malheureusement que temporaire. Parce qu'assez vite, on se rend compte que ça coûte cher. On fait des collectes, on les exempte d'impôts, et en plus, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait. On a vu peut-être jusqu'à 50 000 personnes qui s'installent dans ce tout petit pays, quand même, que sont les Provinces-Unies. Dès 1690, les privilèges d'Amsterdam sont révoqués. En 1715, les États généraux des Provinces-Unies invitent les réfugiés à se faire naturaliser, ce qui fait que du coup, les exemptions tombent, puisqu'ils deviennent hollandais. On cherche aussi à les faire partir ailleurs, ce qui explique ces départs vers le Suriname, vers l'Afrique du Sud. Alors, on a d'autres mesures pour la Russie, Suède, Danemark, etc. Passe là-dessus, et on retrouve ces personnes en train de voyager, parce qu'une fois qu'ils ont franchi la frontière, ce n'est pas la fin des épreuves. La plupart étaient très pauvres, parce qu'ils sont soit pauvres dès le départ, soit parce qu'ils sont partis précipitamment, sans rien avoir pu emporter. Ils étaient secourus dans les villes qu'ils traversaient, non sans provoquer, je vous l'ai dit, des réactions hostiles des populations locales quand ils étaient trop nombreux. Ils avaient avec eux des attestations de leurs pasteurs prouvant qu'ils étaient bien huguenots. S'ils n'en avaient pas, on les interrogeait afin d'être sûr qu'ils avaient bien quitté la France pour leur foi. Sinon, on ne va évidemment pas les secourir. On a très peur dans ces pays, au moment où, je rappelle, Louis XIV est plutôt en guerre avec le reste de l'Europe, on a très peur d'avoir affaire à des espions français. La plupart de ces protestants avaient en fait abjuré en France sous la pression des dragons. Et donc, pour être assistés à l'étranger, pour être acceptés de leurs nouvelles églises, ils devaient se repentir, généralement de manière solennelle, de leurs fautes. Alors, beaucoup sont passés, on l'a vu, par Genève, par le pays de Vaud, mais ne s'y sont pas fixés parce qu'ils étaient trop nombreux. Ils continuent vers Berne, Zurich, Schaffhouse, Bâle. Beaucoup se rendent en Allemagne, et notamment à Francfort, où cette distribution d'aide est organisée. Francfort, c'est peut-être la plus grande place commerciale et financière d'Europe à ce moment-là, qui attire des marchands de tout pays. C'est une ville libre politiquement, c'est-à-dire qu'elle ne dépend, au-dessus d'elle, il n'y a que l'empereur. Il n'y a pas d'un seigneur qui serait intermédiaire, ce qui fait que Francfort a une très grande autonomie. Mais le problème, c'est que les Huguenots ne peuvent pas y rester parce que Francfort est une ville luthérienne et n'accepte pas les Huguenots. Donc on les héberge temporairement, on leur donne des aides et on leur demande de partir. Et on leur demande où ils veulent partir, ce qui est très utile pour les historiens parce que du coup c'est aussi consigné dans les registres, hein, ce qui permet de faire les cartes des destinations. Beaucoup de ces protestants étaient en mauvais état physique à cause des privations, des accidents, des intempéries, voire des attaques de brigands. Certains étaient infirmes quand ils partaient. Il y avait parmi ceux qui partent des femmes enceintes, de très jeunes enfants qui ont fait des centaines de kilomètres à pied ou sur un chariot. Mais bon, sur les chemins muletiers, c'est d'un confort évidemment très relatif. Arrivés au refuge, ils étaient reçus dans des auberges ou chez des particuliers. Certains se retrouvaient dans des hôpitaux. Il y a dans cette population une surmortalité, impossible à chiffrer, mais certainement importante, et notamment chez les jeunes enfants. Quant aux femmes seules, elles étaient elles aussi particulièrement vulnérables, d'autant que leur capacité à exercer un métier n'était souvent pas reconnue. Elles étaient souvent pauvres, même très misérables, quelquefois chargées d'enfants, et du coup n'intéressaient pas les hommes du lieu où elles s'établissaient. Le voyage était d'autant plus difficile que ce voyage durait longtemps, souvent des semaines ou des mois, quelquefois des années. On s'arrête quelques semaines pour se reposer, on repart, et on a des gens qu'on voit arriver à Francfort en 1685, le registre indique qu'ils partent pour une autre ville. On les voit revenir l'année d'après. On sait qu'il reste 3 semaines, qu'ils partent vers les Pays-Bas. Et puis, 1 ou 2 ans après, on les voit revenir à Francfort. Des gens qui n'arrivent pas à s'installer quelque part, ils savent qu'au moins à Francfort, on les aidera pendant un petit moment. Et on a pas mal de cas comme ça de gens qui n'arrivent pas à s'établir et qui finissent par être des immigrés perpétuels. Certains s'établissaient provisoirement près de la France. espérant un changement de la politique royale, mais les populations locales cherchaient souvent à les chasser, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les moyens de nourrir des milliers ou des dizaines de milliers de populations. Certaines villes suisses doublent de population quand les Huguenots arrivent. Donc on leur donne à manger, on les aide un peu, et puis très vite on leur dit qu'on ne peut pas faire plus pour eux et qu'il faut partir ailleurs. Beaucoup donc passent des années à errer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils n'arrivent pas à s'adapter dans un pays avec une nouvelle langue, avec des traditions différentes, un climat différent. Bon, vous imaginez un paysan languedocien qui se retrouve au bord de la Baltique. Certains sont partis avec des plants d'olivier, en espérant pouvoir faire pousser ce qu'ils avaient l'habitude de faire pousser chez eux. Bon. Ou alors, certains ont appris que le reste de leur famille était ailleurs, dans un tout autre endroit d'Europe, et cherchent à le rejoindre. Ou alors, ils fuient des lieux où est mort le conjoint ou les enfants. Une minorité de réfugiés finit ainsi par vivre au crochet de leurs coreligionnaires et par devenir des marginaux, des vagabonds qui vivent d'aumône jusqu'à leur mort. Il fallait aussi s'adapter aux nouvelles structures ecclésiales. Alors ça a été assez facile en Allemagne, puisque la plupart des États ont permis aux Huguenots d'avoir des églises françaises. Il en était de même aux Provinces-Unies, où là les églises françaises existaient depuis ce premier refuge. On parlait d'églises wallonnes, mais en fait, c'était des églises francophones avec pratiquement la même liturgie qu'en France. Donc là, l'adaptation était assez simple. En Angleterre, les choses étaient beaucoup plus compliquées parce qu'il fallait entrer dans l'église anglicane. Par exemple, à Londres, la principale église anglicane francophone était l'église de la Savoie, ou alors dans une église non conformiste, qui, là, pour le coup, était vraiment protestante, calviniste. Et beaucoup de réfugiés avaient des réticences envers l'Église anglicane, jugées trop proches de l'Église romaine. Mais en même temps, adhérer à l'Église anglicane, c'était montrer son loyalisme envers le nouveau souverain, et donc quand même plus prudent. Ce qui fait qu'un certain nombre de Huguenots ont eu de réelles difficultés d'intégration en Angleterre, d'où un nouveau voyage vers l'Irlande, vers l'Écosse ou vers les colonies américaines. Les conditions d'accueil, je l'ai évoqué brièvement, sont donc assez différentes selon les endroits, ce qui a eu des effets sur l'intégration plus ou moins rapide des réfugiés. Et on peut grossièrement distinguer quatre cas. Premier cas, l'Angleterre. L'Angleterre, les Huguenots sont environ 1% de la population anglaise, ce qui veut dire à peu près autant que les catholiques anglais. C'est deux minorités comparables. Mais ces Huguenots sont très concentrés dans certaines régions, notamment Londres, où il y a une vingtaine de communautés protestantes françaises à la fin du siècle, protestantes donc qui rejoignent l'église anglicane, j'ai dit, ou des églises non conformistes. Vous avez un dessin de la principale église non conformiste, donc calviniste, à Londres. Ce sont des protestants qui viennent surtout des provinces de l'ouest de la France. C'est là que c'est le plus facile, évidemment, de partir en Angleterre, surtout du Poitou et de Normandie. Première chose que doit faire un réfugié, c'est d'abjurer le catholicisme auquel il a adhéré sous la contrainte avant de quitter la France. Les consistoires sont attentifs à ne donner des aides que aux protestants considérés comme suffisamment instruits dans leur nouvelle église. Bon, nouvelle église qui est, dans la majeure partie des cas, on a vu, l'anglicanisme. Finalement, en Angleterre, à cause sans doute de ces contraintes, l'intégration a été plus rapide que n'importe où ailleurs, parce qu'on a été... ceux qui ont eu vraiment du mal à s'intégrer à l'Angleterre sont à l'Église anglicane, sont partis ailleurs. Les autres ont prêté serment, se sont mêlés très rapidement à des anglicans anglais, et finalement se sont fondus dans le paysage anglais. Deuxième cas, Là, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire l'électeur de Brandebourg qui accueille des réfugiés. Cette fois, c'est un bas-relief de la fin du XIXe siècle qui se trouve sur l'hôtel de ville de Berlin. Donc, c'est le deuxième cas, Brandebourg-Prusse. La particularité, c'est que ces réfugiés sont venus nombreux, appelés par l'électeur de Brandebourg, donc qui a donné des privilèges considérables. Les églises huguenotes sont sous la dépendance directe de l'électeur de Brandebourg. Ils sont dans un pays particulier, pays majoritairement luthérien, mais l'électeur de Brandebourg est lui personnellement calviniste et a une cour calviniste. Donc c'est quelqu'un qui est minoritaire dans son propre pays d'un point de vue religieux et pour qui il était important de faire venir des calvinistes, des coreligionnaires pour faire contrepoids aux luthériens, donc en plus de l'intérêt économique qu'il y trouvait. Près de la moitié des réfugiés se sont installés à Berlin où ils constituent très vite 15% de la population. Alors ils vivent dans une sorte de bidonville à l'extérieur de Berlin, bidonville qui est devenu, qui s'est bien amélioré puis c'est devenu maintenant l'endroit le plus chic de Berlin. La plupart des autres huguenots s'installent dans d'autres villes du Brandebourg, Francfort-sur-l'Oder, Magdebourg, Halle, Clèves, etc. Et à 90% dans des villes, 10% à la campagne, où ils ont la qualité de paysans libres, contrairement aux paysans allemands qui, eux, sont soumis à de lourdes corvées. Donc même à la campagne, il y a des privilèges importants pour ces protestants français. Ces églises françaises se gèrent de manière autonome. À partir de 1689, elles doivent adhérer à la discipline des églises réformées de France et à la confession de foi des églises réformées de France, c'est-à-dire la discipline, la confession de foi des églises qu'elles venaient de quitter. Ces églises sont surveillées par une commission ecclésiastique qui est sous l'autorité de l'électeur de Brandebourg, et qui se transforme, qui change de nom en 1701 pour devenir consistoire français supérieur avec le roi comme autorité suprême, l'électeur de Brandebourg qui est devenu entre-temps roi de Prusse, qui est l'autorité suprême jusqu'en 1809, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Saint-Empire romain germanique. Ce qui fait que cette église du Brandebourg est devenue progressivement une église d'État prussienne de confession française. Et donc une église qui conserve une certaine identité. La première génération a conservé sa langue, ne faisant que quelques emprunts à l'allemand. Mais le français garde sa place dans l'administration de la justice et dans l'église, même si le roi de Prusse fait des efforts pour qu'on introduise l'allemand. En 1738, mais on est déjà bien longtemps après la révocation, on oblige à tout nouveau pasteur de faire une prédication d'essai en allemand. Les autres prédications en français. Les maîtres d'école doivent connaître les deux langues. Dans les registres de l'administration, comme dans les registres de l'Église, le bilinguisme apparaît à la fin des années 1720 et on voit que le français est de plus en plus mauvais, avec des expressions allemandes qui commencent à s'introduire. Mais on enregistre les mariages en français jusqu'au mois d'avril 1896. À ce moment-là, on ne sait plus bien le français dans cette colonie, mais on continue à enregistrer en français. Les classes bourgeoises cultivées ont un meilleur français, malgré tout, et des fils de réfugiés, comme le pasteur Formet. Formet est né à Berlin en 1711, il meurt en 1797. Formet va devenir secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin, l'équivalent de l'Académie française pour le Brandebourg. Et ces gens cherchent à promouvoir le français. Des livres sont écrits pour défendre la langue française et les écoles, les pensionnats français ont un grand succès tout au long du XVIIIe siècle auprès de la noblesse allemande, ce qui contribue à la mode de l'utilisation du français parmi les élites. Le français, pourtant, se perd parmi le peuple et dès la deuxième génération, des mariages en dehors de la colonie, donc avec des Allemands, se multiplient, même si le culte reste en français, parce que le culte reste un élément d'identité. Et on voit qu'au bout de la deuxième, troisième génération, on parle allemand dans la vie courante et on parle français lors du culte. Ça n'empêche, même si le français se maintient, et on l'a vu pour les mariages jusqu'en 1896, ça n'empêche pas ses descendants de huguenots de se considérer comme des patriotes prussiens. Ils se disent les meilleurs des Allemands. Et ils vont le dire jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870, où là, il y a un véritable conflit chez eux. Ils veulent maintenir des traditions françaises, ils se disent descendants de Français, mais ils vont être volontaires pour se battre avec la Prusse contre l'État français. La situation est un peu différente dans les autres États allemands. Donc, cas suivant, vous avez là l'exemple du plan d'Erlangen, donc une ville fondée vraiment pour les Français. À l'origine, on a la déclaration du margrave de Brandebourg-Bayreuth, dont dépend Erlangen, le 7 décembre 1685. Cette déclaration accorde des privilèges aux réfugiés qui viendraient dans ces États. Ces réfugiés ont le libre exercice de la religion. Le margrave promet d'entretenir un pasteur et un maître d'école. Il donne des prêts à tous ceux qui veulent fonder des manufactures. Il aide ceux qui veulent construire à Erlangen et les exempte de taxes et d'impôts. Les premiers réfugiés arrivent en mai 1686. C'est des marchands de Vitry-le-François. D'abord, ils logent dans des villages près de la vieille ville d'Erlangen que vous voyez tout en haut. Mais la population luthérienne leur est très hostile. Et c'est ensuite qu'on bâtit la ville nouvelle que vous voyez, qui est avec le margrave mettant à la disposition des réfugiés des moyens de transport et des matériaux de construction. Une administration municipale est mise en place, ainsi qu'un tribunal du commerce. Un temple est commencé en 1686. Il va mettre du temps, il ne sera achevé qu'en 1736. Et il est construit sur le modèle du temple, enfin de l'ancien temple, détruit à ce moment-là, de Vitry-le-François. À partir de 1690, viennent de nouveaux réfugiés, qui sont cette fois des Allemands du Palatinat, et qui vont constituer assez vite un tiers de la population de la ville. Mais au XVIIIe siècle, la ville fait très française, avec des maisons à deux étages de style français. Les églises se réunissent en synode, comme en France, dans le margraviat de Brandebourg-Bayreuth, mais également dans les autres États allemands. Malgré cela, la population huguenote d'Erlangen s'intègre dans la population allemande. Ces Allemands qui sont arrivés obtiennent le droit d'utiliser le temple français. Et assez vite, les Français sont minoritaires. En 1723, on a 2154 Allemands, 1028 Français. Les Allemands remplacent peu à peu les Français dans les ateliers, comme dans les manufactures. Les activités économiques se font en commun. On le voit, même si les Allemands deviennent de plus en plus nombreux. Premier mariage mixte entre Allemands et Français en 1689, le quatrième seulement en 1698. Donc au début, c'est quand même très rare. En revanche, entre 1741 et 1750, un tiers des mariages sont des mariages mixtes. Donc on est là à la période charnière où l'intégration en Allemagne se fait. Sur le plan culturel, en 1700, personne ne comprend l'allemand. En 1703, les Français qui veulent apprendre l'allemand sont envoyés auprès du maître d'école allemand. En revanche, dans les années 1770, le français écrit est cette fois corrompu, très marqué par des expressions allemandes. À cette date, on a l'impression que l'appartenance à la communauté française, c'est surtout une question de privilège, mais plus de culture ni de religion. Et en 1792, le margraviat passe sous la souveraineté de la Prusse. Du coup, ces églises se soumettent au règlement des églises de Prusse. Et les derniers privilèges pour les huguenots disparaissent en 1810. Dernier cas, les provinces unies. Comparativement à la taille du pays, c'est là sans doute que les huguenots se fixent en plus grand nombre. Ce qui s'explique par les liens anciens entre la France et ses Pays-Bas du Nord, par le prestige aussi des églises néerlandaises au XVIIe siècle auprès des réformés français, et puis par cette présence d'églises francophones, ces fameuses églises wallonnes. Donc il y a toute une politique de propagande des États, des villes, des Pays-Bas, on l'a vu, mais en même temps, les autorités sont très vite débordées par l'afflux de réfugiés. Les historiens se sont beaucoup penchés sur l'apport des réfugiés à l'histoire des Provinces-Unies, notamment sur le plan économique. Et on a constaté une expansion au moment de l'arrivée des Huguenots. Une importante fuite de capitaux a eu lieu de la France vers les Provinces-Unies, au point que la Banque d'Amsterdam a dû baisser son taux d'escompte de 3 à 2% en 1687. L'industrie textile a bénéficié des compétences techniques des dessinateurs et des tisserands français, ce qui a permis à des ateliers d'Amsterdam, de Leyde, d'Haarlem, d'Utrecht, d'Ordrecht, de se moderniser. Mais le bilan est assez mitigé. Si on a une expansion juste après la révocation, on constate que la plupart des manufactures fondées par les réfugiés font assez rapidement faillite. Et le bilan sur le long terme apparaît plutôt négatif, l'apport français ayant entraîné une surproduction. La librairie, donc on le voit nettement pour le textile. La librairie et la papeterie, l'industrie du verre ont connu un réel essor, en revanche, de même que le commerce du luxe, mais ça représente assez peu sur l'ensemble de l'économie néerlandaise. Finalement, les économistes, historiens de l'économie néerlandais considèrent aujourd'hui que l'immigration huguenote n'a pu au mieux que freiner pendant quelques années le déclin économique qui s'amorçait à ce moment-là dans les Provinces-Unies. En revanche, pour les huguenots français, cela leur a permis de s'insérer dans cette économie, ce qui allait dans le sens d'une certaine assimilation. Assimilation qu'on peut voir au niveau culturel, mais qui est assez lente. Le nombre de lettrés français, leur investissement dans l'éducation ou dans la presse et la librairie font que le français, la culture française, se développe énormément. Mais ça suscite des sentiments mitigés. Les descendants des huguenots qui ont réussi sont bien acceptés. En revanche, beaucoup ont du mal à vivre et continuent à bénéficier d'aide et du coup sont mal vus des populations locales. D'autant que les Français ne s'adaptent pas à leur nouveau pays. Ils ont un sentiment de supériorité. Ils sont pleins de mépris pour les mœurs néerlandaises. D'où un nationalisme anti-français. Très peu de Français, par exemple, apprennent le néerlandais. Ils continuent à vivre entre eux et au bout de quelques générations, continuent à parler français. En 1743, en réaction contre cela, les magistrats d'Amsterdam décident que les enfants de pauvres huguenots ne pourront plus suivre l'école française et devront suivre l'enseignement primaire de l'école néerlandaise. Et partout, le statut privilégié des huguenots disparaît dans les années 1730-1740. L'intégration s'est faite donc finalement sous la contrainte plus rapidement qu'en Allemagne. Les mariages mixtes vont alors se multiplier. La plupart des huguenots vont devenir bilingues, beaucoup passent à l'église néerlandaise. Et les églises françaises vont peu à peu disparaître. On en a 62 en 1688, encore 54 en 1750, mais plus que 32 en 1793. Alors, la révocation a-t-elle favorisé, c'est ça mon tout dernier point, a-t-elle favorisé la réussite économique des protestants ? Il faut d'abord rappeler que ça n'a pu concerner qu'une minorité des migrants. La plupart, on l'a vu, étaient des pauvres gens hein, qui ont eu du mal à se faire à leur nouvelle vie. Mais on peut se demander si pour quelques-uns, l'émigration n'a pas été une chance. En réalité, la réforme calviniste a subi des persécutions dès les origines, dès le XVIe siècle. Et donc, cette diaspora là que j'évoque n'est pas la première. Dès le XVIe siècle, Genève accueille de nombreux réfugiés français et italiens qui ont toujours de la famille dans leur pays d'origine ou dont une partie de la famille s'est rendue dans d'autres pays. Un certain nombre de ces réfugiés à Genève se lient entre eux et avec les familles dominantes de Genève. Ils jouent alors un rôle important dans les conseils de la ville comme dans les affaires. Les Italiens ont introduit à Genève le commerce et la fabrication de la soie, se lancent dans le grand négoce international. Les Français, eux, sont plutôt d'origine artisanale, Parmi eux, des soyeux, des passementiers, des drapiers, des épiciers, des imprimeurs libraires. Ils font du négoce de marchandises, mais aussi du change. Le même phénomène va se produire en Angleterre, avec des Français et des Allemands vers le milieu du XVIe siècle, aux Provinces-Unies au XVIIe, avec des Flamands. Ce qui fait que des protestants français se retrouvent assez vite à Genève, en Angleterre, en Hollande ou encore ailleurs. Inversement, des négociants protestants étrangers sont présents en France. On trouve des Hollandais dans tous les ports de l'Atlantique, notamment à Bordeaux, Nantes, Rouen, La Rochelle, mais aussi à Lyon, Marseille, Toulouse. Les Allemands sont nombreux à Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille. Des Suisses et des Genevois dominent parmi les étrangers à Lyon et à Marseille. Ce qui fait qu'à la fin du XVIIe siècle, avant même la révocation, des réseaux protestants sont déjà en place. La révocation va accentuer le phénomène, dans la mesure où beaucoup de négociants huguenots partent en exil, alors que les étrangers, eux, peuvent rester. Ils ne sont pas touchés, ce ne sont pas des protestants français. Donc, eux peuvent rester. Comme exemple, je peux prendre le cas de la famille Tourton, assez emblématique. La famille Tourton est originaire d'Annonay. Claude Tourton s'établit à Lyon à la fin du XVIIe comme marchand confiseur. Son fils Jean-Claude se lance dans la banque à Paris. Claude Tourton, donc le confiseur, épouse Jeanne Guiguerre, qui est fille d'un négociant de Saint-Gall, donc en Suisse, mais qui s'est établi à Lyon. Il s'appelle Léonard Guiguerre. Un de leurs fils, qui s'appelle également Léonard, épouse Élisabeth Tourton. Donc on a des alliances qui se redoublent entre Tourton et Guiguerre. Léonard fils continue après la révocation son commerce à Lyon en tant qu'étranger. Jean Tourton, lui, français, part à Amsterdam, devient banquier à Amsterdam, où il va diriger la société de Suriname, donc lien entre Amsterdam et l'Amérique du Sud. D'autres membres de la famille se réfugient en Angleterre. Et les Tourtons Guiguerre s'associent également avec d'autres familles de négociants banquiers d'origine suisse, Lohrer, Solikoffre, par exemple, ce qui leur permet, avec un statut d'étranger, de rester à Paris, qui devient au centre du XVIIIe siècle le centre de leurs activités. La banque Tourton et Guiguerre de Paris est une de celles qui compte le plus pour le gouvernement français. Elle traite en particulier avec l'Allemagne. En 1715, Isaac Tellusson, qui est un des cousins des Guiguerre, devient associé gérant de la maison, maison qui va poursuivre son activité jusqu'à la Révolution sous des noms variés. Elle s'appelle Tellusson et Necker, un nom qui doit vous dire quelque chose, en 1757. Vers 1770, les trois plus grandes banques françaises sont la banque Tellusson, donc on est dans la famille, la banque Necker et compagnie, on est avec des cousins, et la banque Tourton et Bauer. C'est-à-dire trois banques liées de plus ou moins près à cette famille Tourton et au réseau huguenot. Entre 1789 et 93, l'héritière de la maison Tourton s'appelle Greffule et Mons. C'est une banque d'affaires qui a entre 100 et 200 clients sur 70 places françaises et étrangères, dont Londres, Amsterdam, Bordeaux, Lyon, Nantes, Genève. Le plus important, sans doute, c'est que ces négociants français ou étrangers entretiennent tout un réseau confessionnel et familial, ce qui ne les empêche cependant évidemment pas de faire des affaires également avec des catholiques. Ces réseaux sont utilisés pour la formation professionnelle et religieuse. Exemple, François Calandrini de Genève commence son apprentissage à Francfort. Il est muni de lettres de recommandation d'un cousin qui s'appelle Hubert et qui est à Lyon. C'est un Genevois, donc il peut rester à Lyon, il est étranger, et qui recommande donc le cousin Calandrini à Francfort pour des parents Hubert résidant là-bas. Calandrini va ensuite chez Jean Philibert à Amsterdam. Les Philibert ont aussi des cousins à Lyon, comme par hasard. puis va chez le frère de ce Jean Philibert à Londres. À son retour à Paris, François Calandrini est reçu par Tourton. Il rentre ensuite à Lyon, puis à Genève. À son tour, on a vu le rôle important de la famille Hubert pour les lettres de recommandation. Jean-Antoine Hubert va faire son apprentissage à Londres chez Calandrini. On est à la génération suivante et échange de bons procédés. Autre exemple, les Bonafé, riches négociants de Bordeaux, utilisent leurs réseaux familiaux et confessionnels pour former les enfants de la famille. François Bonafé place ses deux fils, qui ont 10 ans alors, en Suisse, puis ils vont entreprendre un tour d'Europe à partir de 1783, le long des côtes françaises, puis en Angleterre, aux Provinces-Unies, dans le Saint-Empire, en Italie, et à chaque fois, ils sont recueillis par des membres de la famille ou des associés. Et donc on voit le réseau familial et confessionnel qui joue à fond pour la formation de ces fils de bonne famille. Pour résumer, les guerres et surtout les persécutions catholiques ont provoqué une dispersion éminemment favorable à une minorité de familles protestantes, minorité incitée à pratiquer des activités capitalistes en plein essor, parce qu'au refuge, ces familles ont des capitaux et non pas, comme les riches catholiques français, des offices ou des terres que les catholiques français vont faire fructifier. Là, il n'y a pas de terres, il n'y a pas d'office à acheter, ou c'est au bout de quelques générations seulement qui vont se lancer là. Là, c'est des capitaux qu'il faut faire fructifier. D'autre part, ces familles sont poussées à la réussite sociale pour pouvoir réellement exister. On a vu que ces immigrés sont mal reçus dans ces pays. On fait appel à eux parce que les chefs d'État, les souverains savent que ça pourra être un apport économique, mais les populations locales les voient d'un mauvais œil. Et donc, pour pouvoir exister, pour s'imposer dans ces nouveaux pays, d'un point de vue psychologique, on a besoin de réussir. Et là, on a un facteur psychologique sans doute très important qui explique cette réussite des Huguenots comme elle explique la réussite économique des Juifs séfarades, par exemple, chassés d'Espagne et qui vont s'établir eux aussi dans toute l'Europe, voire dans le monde entier, et qui ont besoin aussi de se faire accepter. Alors, ils vont se faire accepter quand ils le peuvent, parce que tout le monde n'est pas doué pour ça et tout le monde n'a pas les capitaux nécessaires pour se lancer, mais en faisant fructifier les affaires et en réussissant du mieux possible. D'autre part, cette dispersion s'est faite surtout dans les pays protestants, c'est-à-dire les pays d'Europe du Nord-Ouest, les provinces unies, un peu le Saint-Empire, mais surtout les Provinces-Unies, l'Angleterre, pays qui, est-ce un hasard, sans doute quand même en partie, ce sont les pays qui connaissent à ce moment-là le plus grand essor économique parce que c'est le moment où l'économie européenne s'ouvre vers l'Atlantique et où il y a vraiment un basculement de l'économie européenne de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et c'est à ce moment-là que les protestants fuient vers des pays protestants. Les pays protestants, ils sont au bord de l'Atlantique. Donc, une facilité supplémentaire, ce qui ne va pas empêcher ces protestants de commercer également avec des pays méditerranéens et notamment avec des maisons protestantes d'Italie ou d'Espagne. En guise de conclusion, je crois qu'il faut, on peut rappeler cette réussite huguenote, mais en même temps, j'ai essayé de beaucoup insister là-dessus, c'est de démystifier l'exode des huguenots. Ça fait déjà plusieurs années que des historiens, notamment américains, ont prouvé que finalement l'exode huguenot n'a pas ruiné la France. 180 000 personnes qui partent pour un pays qui a 20 millions d'habitants, bon, c'est important, mais c'est quand même pas massif. Et sur ces 180 000, la plupart sont des pauvres gens. Alors, ça a pu ruiner des économies locales. Dans certains lieux, effectivement, le départ des quelques négociants du village ou de la petite ville a été une catastrophe. À l'échelle de la France, c'est beaucoup moins évident, d'autant que quand des négociants huguenots partaient, on avait très rapidement souvent des protestants étrangers qui venaient prendre la place. Les places restent rarement libres très longtemps et c'était souvent des négociants suisses, genevois, allemands qui venaient s'installer à la place. Donc à l'échelle française, sans doute pas une grosse perte pour la France. D'autre part, il faut bien être conscient que l'accueil des réfugiés n'a pas été seulement une entraide confessionnelle. Ça l'a été, mais pas seulement. Cet accueil entrait dans un plan conscient d'opposition à Louis XIV, dans une volonté pour les souverains étrangers de développement économique, d'un désir également en Brandebourg de combler un déficit démographique remontant à la guerre de 30 ans. Je rappelle la guerre de 30 ans qui s'arrête en 1648 a dépeuplé l'Allemagne. Il y a à peu près un tiers de la population allemande qui a disparu. Et 40 ans après, l'Allemagne n'a pas récupéré cette population et dans des régions comme le Brandebourg, il y a encore un déficit démographique très important. Donc l'arrivée de réfugiés est une manière aussi de combler cela. Alors cet exode a été un phénomène religieux, certes, mais également bien plus que cela. Je crois qu'il faut intégrer cela dans l'histoire des migrations de l'époque moderne. Ce que je vous ai dit sur la difficulté de se déplacer, de s'intégrer, ce n'est évidemment pas propre aux Huguenots, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les types de migrations et à peu de choses près à toutes les époques. Bon, des variations évidemment suivant les moyens de locomotion, mais on retrouve ces mêmes difficultés. Et donc il faut vraiment comprendre comme une migration pour mieux comprendre la logique du choix du lieu d'accueil, pour comprendre les difficultés d'établissement durable, d'intégration dans la société d'accueil, pour comprendre les motifs de départ, motifs religieux, mais aussi économiques, parce qu'il y a sans doute un certain nombre de ces protestants sont partis parce qu'ils pensaient que c'était plus facile de vivre leur foi à l'étranger, mais aussi parce qu'ils se disaient qu'il y avait peut-être des opportunités à partir à l'étranger. Quand ils apprennent qu'ils sont exemptés d'impôts pendant 12 ans, qu'on leur donne une maison et des terres, ça peut faire partir autant que la motivation religieuse. Alors, quitte à déchanter après, c'est pas toujours aussi rose. On retrouve des questions toujours actuelles, comme ces questions de partir seul ou à plusieurs, questions du regroupement familial, est-ce que ça va être accepté ou non. Des questions très concrètes qui se posaient à cette époque, qui se posent aujourd'hui aussi. Et donc, un départ, une diaspora. Un exode difficile avec une diaspora qui a été une chance, malgré tout, pour une minorité, non pas sans doute, et là je ne serais pas d'accord avec Max Weber, non pas en raison d'une propension à faire des affaires ou d'une affinité avec l'esprit du capitalisme, mais sans doute par la conjonction entre une fortune, un savoir-faire, la dispersion de la famille et des associés dans les principales places de commerce du monde, et de ce fait, l'existence d'un fort cosmopolitisme dans cette population. Les négociants huguenots ne se sont finalement guère conduits autrement que d'autres minorités persécutées. J'ai évoqué les juifs séfarades, mais on pourrait parler des jacobites anglais, ces catholiques qui ont fui l'Angleterre au moment de la glorieuse révolution 1688, et qui, eux aussi, font fortune. Les principaux négociants de cognac français actuels, par exemple, sont pour la plupart des descendants de jacobites. Ouais, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui? Ah oui.
Merci. Vous n'avez fait aucune allusion à l'Alsace, où il y avait des protestants et aussi des entreprises de filature et tissage.
Oui, alors l'Alsace n'a pas été...
On en parlera demain.
L'Alsace n'a pas été touchée par la révocation de l'édit de Nantes. Il y a eu quelques tracasseries faites aux protestants, mais officiellement... Pas de révocation de l'édit de Nantes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'édit de Nantes, l'Alsace n'étant pas française à ce moment-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'exode d'Alsaciens, En revanche, c'est une région où effectivement les protestants étaient nombreux. Les entreprises de filature, de tissage sont majoritairement protestantes, mais se sont plus développées au 19e siècle. Avec donc là des familles protestantes où on a souvent un frère industriel et l'autre frère pasteur.
On va en parler en fait demain de ce sujet-là parce que toute cette aventure a eu des petits en Angleterre et donc a été une amorce partielle du développement des indiennes. Oui. Des indiennes dont on parlera demain. Je rappelle que nous sommes allés il y a 2 ans au musée d'impression sur tissu de Mulhouse, où nous avons appris tous les détails de cette histoire, mais qui est fort complexe.
Oui, un des principaux fabricants, c'est au moment de la Révolution,
Oberkampf,
qui est un protestant alsacien qui s'installe en Jouy-en-Josas.
Mais demain, donc, on en parlera, bien qu'on parle de l'Angleterre, on va incidemment parler de l'Alsace. Donc, deux précisions personnelles. Il y a des historiens qui vont jusqu'à dire, en poussant le trait, vous l'avez un petit peu évoqué, qu'on a perdu la guerre de 1870-71 à cause de la révocation de l'édit de Nantes, puisque plus de 40% des généraux de Bismarck, ou de Guillaume, étaient d'origine française, et il y a toujours un ministre actuellement dans le gouvernement de Madame Merkel qui s'appelle de Maizière, M-A-I-Z, et qui est un descendant des protestants de la révocation de l'édit de Nantes. Oui. Donc il y a beaucoup de patronymes français également en Allemagne et dans des postes très élevés, dans des postes politiques ou militaires.
Oui. Alors dire qu'on a perdu la guerre 70...
Parce qu'ils sont
partis de 100 ans.
Oui.
Mais en revanche...
un trait d'humour, on va dire.
En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un pourcentage assez important d'ingénieurs militaires, notamment des collaborateurs de Vauban, qui sont partis au moment de la révocation de l'édit de Nantes et qui ont aidé à lutter contre Louis XIV. Bon, ça n'a pas été décisif, mais le principal adversaire de Jacques II en Angleterre et des troupes françaises qui vont aider, c'est le Ruvigny, qui est un général huguenot qui s'est réfugié aux Provinces-Unies et qui a accompagné ensuite Guillaume en Angleterre, quand Guillaume est devenu roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III. Et donc, il y a Ruvigny, il y a Schomberg également, maréchal de Schomberg qui est un huguenot. Donc, dans les troupes qui ont lutté contre Louis XIV, il y a eu effectivement des huguenots, mais ça reste une minorité. Et effectivement, en 1870, ils ont encore un nom français, mais...
Une autre petite précision pour ceux qui auront ou qui ont déjà été en Afrique du Sud. Donc, il y a une ville qui s'appelle Franschhoek, le coin des Français, qui est derrière le Cap, dans la région des vignobles. Et là, il y a un musée protestant qui est tout à fait spectaculaire, où on voit, ça ressemble un peu aux Amish ou aux Mormons. Ils ont des looks absolument extraordinaires. Et donc, tous les Français qui sont allés là-bas, en passant par les Provinces-Unies, en fait, étaient des descendants de viticulteurs. Mmh. Et donc, se sont établis en Afrique du Sud parce que dans la région des vignobles. Mmh. Et donc, j'ai eu l'occasion ou la chance de visiter ce coin, le coin des Français, Franschhoek. Donc, c'est à 200 kilomètres du Cap, à l'intérieur des terres. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion d'y aller, de visiter ce petit village, en fait. C'est pas très grand, et de déguster du vin avec des patronymes français. Oui. Voilà.
Oui. Alors, l'histoire des huguenots en Afrique du Sud est très intéressante actuellement, parce que ce sont des gens qui sont partis et qui ont réussi, finalement, à s'établir en Afrique du Sud, qui se sont considérés comme élus par Dieu, et à partir de là, ont développé des thèses très extrêmes. Ça a été pendant longtemps les principaux tenants de l'apartheid. Et actuellement, il y a une réflexion très intéressante sur la mémoire huguenote en Afrique du Sud. Des gens qui se demandent comment des gens qui ont fui parce qu'ils étaient persécutés, ont pu ensuite persécuter les autres. Y a tout un travail de mémoire douloureux, mais en même temps très intéressant.
C'est un phénomène communautaire, certainement,
oui,
combien mais, il y avait un noyau qui
oui,
était très
non,
petit.
Ça peut se comprendre, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion qui mène aujourd'hui pour essayer de comprendre comment ils ont finalement, oui, adopté une attitude tout à fait contraire aux valeurs pour lesquelles ils fuyaient.
Bien, y a-t-il d'autres questions ? Donc, oui ?
Là, je ne pourrais pas vous dire, parce que le protestantisme n'est pas interdit, donc il n'y a aucune raison de les... Oui, c'est, a priori, ça ne doit pas être une raison religieuse, parce que...
Oui.
Oui, faudrait voir s'il n'y a pas une autre... Non, parce que le protestantisme est tout à fait autorisé en France depuis le Concordat, donc... Oui, alors il peut y avoir des oppositions locales. Oui. 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 Non, il peut y avoir une mésentente locale. Et
non, mais le pays de Montbéliard, c'est très particulier.
Mais Montbéliard, oui, c'est un peu...
C'est le seul endroit luthérien en France.
Oui, voilà. Et qui est devenu français tardivement.
Et qui est devenu français à la Révolution, quoi. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. D'ailleurs, le conférencier de demain vient de Montbéliard. C'est mon homologue de l'UTB de Montbéliard. Et donc, il est président de la Société d'Histoire de Montbéliard. Il nous a fait une histoire. Il nous a fait l'histoire du pays de Montbéliard. Donc, si vous voulez lui poser des questions sur Montbéliard, vous venez demain et vous lui reposez des questions sur Montbéliard. Voilà. Bien, merci. Et pour ceux qui ne reviennent pas, malgré l'intérêt que vous manifestez pour nos conférences, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà.